Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Une affaire criminelle aujourd'hui. Une tentative d'assassinat. La tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en mai 1981. À Rome, au cours d'une audience publique. À l'époque où le pape circulait encore sans protection, sans cage de verre blindé, au milieu de la foule, sur sa papa mobile. Et c'est après, à cause de cet attentat, qu'on va inventer la cage de verre qui protège aujourd'hui le pape François et avant lui, Benoît XVI. Vous vous souvenez peut-être du nom de celui qui a tenté d'assassiner le pape, Ali Aksa, un jeune turc auquel le pape a ensuite pardonné. Mais je ne suis pas certain que vous vous souveniez de ses motivations. Et pour cause, le mystère n'a jamais été vraiment percé. Et c'est pour ça que pour débriefer cette histoire, j'ai invité la journaliste Roumania Ugarczyńska. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez publié en 2007 La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II aux presses de la Renaissance. Et vous nous direz à quelle conclusion vous êtes arrivé. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Pierre Anquetin. La réalisation est de Céline Lebras.
Christophe Ondelatte.
La grande affaire de cette histoire, c'est son issue, le pardon. Le pape Jean-Paul II pardonne à celui qui a voulu le tuer. Vous me direz, c'est son métier de pape que de pardonner. Et ça n'est pas faux, le pardon est au cœur de la doxa catholique. Néanmoins, ça reste quelque chose d'étrange, comme un défi à cette part animale que nous traînons depuis Cro-Magnon, à cette petite voix qui nous dit « œil pour œil, dent pour dent ». Tu as voulu me tuer, tu payes. Je vous emmène donc le mercredi 13 mai 1981 au Vatican, à Rome. Vous voyez la place là, les colonnes tout autour, l'obélisque en plein milieu et derrière la basilique? C'est la place Saint-Pierre. C'est là que tous les mercredis, le pape Jean-Paul II donne une audience publique. Il est jeune Jean-Paul II à cette époque-là, 61 ans. Il est pape depuis 3 ans. Il adore les bains de foule. C'est tellement coupé de la vie, un pape. Ça vit tellement dans une bulle. Et là, à portée de main, il y a 20 000, 25 000 personnes, des vrais gens qui veulent lui parler, qui veulent le toucher. C'est tentant. Alors tous les mercredis, il y va. Et d'ailleurs, il est 17h et le voilà. Soutane blanche, sa calotte sur le crâne, juchée sur sa Jeep blanche décapotable, la Campagnola. Notez qu'à l'époque, il n'y a pas de cage en verre hein, sur la voiture. Pas encore. Il y a des gardes suisses et des policiers en civil, mais à part ça, le pape est à découvert. Époque bénie de l'insouciance. Et donc la voiture roule au pas, les gens applaudissent, l'acclament, d'autres prient. Et lui, il est à 50 cm des gens. Alors il se penche, il serre des mains, on lui tend une fillette à bout de bras, il la prend, il l'embrasse et il la rend à sa maman. Et la Campagnola fait comme ça un premier tour de la place par le côté gauche. Et à 17h17, elle entame un deuxième tour par le côté droit. Elle fait quelques mètres et au niveau de la porte de bronze, à droite de la basilique, trois coups de feu et une clameur d'effroi qui s'élève au-dessus de la foule. Jean-Paul II grimace, il fléchit un peu en avant, il y a une tache rouge sur sa soutane. Il est blessé. Il porte sa main pleine de sang à son cou et il chancelle. Son secrétaire personnel et son camérier, son valet, le rattrapent. Des policiers sautent sur la Campagnola pour faire écran de leur corps et on voit des gens, des fidèles, qui se mettent à encercler le tireur. Ils l'ont vu tirer. Ils sont autour de lui. Ils le bousculent pour l'empêcher de tirer à nouveau. Son arme tombe au sol. Il essaye de la ramasser et là, une religieuse en noir, l'attrape par le bras. Elle le serre de toutes ses forces pour l'empêcher de récupérer son arme. Le type se débat et là arrive un policier en civil qui le plaque au sol. Le type est neutralisé. C'est un jeune, brun, les yeux noirs, les pommettes saillantes, mince avec une veste claire. Et il crie « Non sono io! Non sono io! C'est pas moi, c'est pas moi !» et la nonne lui répond.
Si, Saito ! Si, Saito !
Si, c'est toi ! Et l'homme est escorté par une vingtaine de policiers vers la porte de bronze et la foule qui crie.
À mort ! À mort !
Vous voyez ce que je vous disais ? Œil pour œil, dent pour dent, c'est le premier réflexe. Le type est d'abord emmené au commissariat de Borgo, près du Vatican, et ensuite à l'antiterrorisme. Les policiers ont récupéré son arme, c'est un Browning 9 mm.
Il est tiré à bout portant. Le pape s'est d'abord porté la main au ventre, apparemment où il était blessé. Puis ensuite, il s'est écroulé. Il est tombé dans les bras de son secrétaire. Et immédiatement, le chauffeur de la Jeep l'a emmené vers l'intérieur du Vatican en repartant vers la partie gauche de la place. Puis est passé sous l'arc des cloches, derrière laquelle se trouve en permanence une ambulance de la Croix-Rouge qui, à ce moment-là, a transféré le pape à l'hôpital Gemelli.
Pendant le trajet vers l'hôpital, Jean-Paul II perd beaucoup de sang. Il est opéré dès son arrivée aux urgences. L'opération dure 6 heures. Le pape est entre la vie et la mort. Un homme est arrêté et emmené dans les locaux de la police antiterroriste de Rome. Et il est conduit dans une salle d'interrogatoire et installé sur une chaise. Il a été pris sur le fait, il ne prend pas la peine de nier.
Oui, j'ai tiré sur le pape.
Mais il refuse de donner son identité. Il prétend qu'il est chilien, et puis finalement, il dit qu'il est de nulle part.
Quels sont tes complices ? J'ai pas de complices. J'ai agi seul.
Et là ? Là, il ment, parce que pile à ce moment-là, les enquêteurs disposent de plusieurs témoignages qui parlent d'un deuxième homme. Un policier, d'abord, l'a vu arme au poing en train de tirer ce deuxième homme. Mais il y a mieux que ça. Un photographe américain l'a pris en photo, de dos. Un jeune homme aux boucles brunes, avec un blouson de cuir noir. On le voit clairement sur la photo. Dans la main droite, il tient un pistolet. Donc le type ment. Ils étaient deux, et ils pourraient être deux à avoir tiré. Immédiatement, les policiers lancent un signalement. Ils diffusent sa photo. Et ils retrouvent la pension où il a passé la nuit dernière. La pension Isa, près de la place Saint-Pierre. Où il a laissé un passeport turc au nom d'Ozgun.
C'est ton passeport ?
Ouais.
C'est un faux. Quel est ton vrai nom ? Ton vrai nom ?
Et là, le type qui, il y a deux secondes, ne voulait rien dire, déballe son CV d'un trait.
Je suis Mehmet Ali Aksa. Je suis le plus grand terroriste de Turquie.
Ali Aksa. Les policiers passent son nom au fichier. Et effectivement, il y a un type du même nom qui est recherché par Interpol depuis janvier 1981 pour un assassinat. C'est un Turc de 23 ans, un militant d'extrême droite. La photo correspond. C'est bien lui. Et là, on découvre son pédigré. Mamma mia ! Il y a un an et demi, à Istanbul, il a vidé son chargeur sur le rédacteur en chef du Milliyet, le plus grand quotidien turc. Le journaliste est mort sur le coup. Et il enquêtait justement sur la collusion entre l'extrême droite nationaliste turque, les services secrets turcs et la CIA. Il est mort avant d'avoir publié son papier. D'après ce que dit sa fiche, cet Ali Aksa appartiendrait à une milice turque d'extrême droite qui s'appelle les Loups Gris. Son dossier dit qu'il a été embrigadé à 17 ans. Et les Loups Gris, renseignement pris, haïssent les Kurdes, les Juifs, les Arméniens, bien sûr, et les Chrétiens. Ils sont armés, bien entraînés, et ils auraient le soutien de membres des services secrets turcs. D'après son dossier, Ali Aksa est arrêté quelque temps plus tard à la terrasse d'un café. Il avoue l'assassinat du journaliste et 5 mois plus tard, il s'évade de prison. Eh ben dis donc, c'est un sacré coco. cet Ali Aksa qui vient de tirer sur le pape. Hein ? L'affiche dit que pour s'évader, il a bénéficié de la complicité de 6 militaires et gardiens de prison. C'est vraiment un sacré coco. Et c'est pas fini. Le jour de son évasion, il envoie une lettre au journal Milliette, dont il a exécuté le rédacteur en chef un an plus tôt. Et dans cette lettre, il menace de tuer le pape Jean-Paul II, s'il maintient la visite qu'il a prévu de faire en Turquie 2 jours plus tard. Il y a la lettre dans le dossier. « Si cette visite n'est pas annulée, je tuerai le pape à coup sûr. C'est l'unique motif de mon évasion. » Voilà donc le profil de l'animal qui vient de tenter de tuer le pape. Ali Aksa, un nationaliste turc d'extrême droite qui a déjà tué et qui était en cavale depuis une évasion. Et donc son interrogatoire reprend.
Tu n'es qu'un tueur fasciste. C'est faux. Mon terrorisme n'est pas rouge ou noir. Il est rouge et noir. Et je suis avec les Palestiniens. Enfin, tout ça n'a pas d'importance. Je suis au-dessus des idéologies. J'appartiens à une nouvelle race de terroristes. Vous comprenez ?
Non. On ne comprend pas parce que c'est un enfumeur qui alterne entre la logorée et maintenant le mutisme complet. Il y a même un moment où il s'endort sur sa chaise et il se réveille frais comme une rose, paré pour la suite de l'interrogatoire. Dans la chambre de la pension Isa, les policiers ont retrouvé des notes dans lesquelles il dit qu'il va tirer sur le pape en signe de protestation contre l'ONU et l'impérialisme occidental.
Pourquoi est-ce que t'as voulu tuer le pape ? J'ai pas de haine envers le pape.
Qui sont tes complices ?
Moi, seul. J'ai décidé seul, même si des gens m'ont aidé.
Qui ?
Oh, des Bulgares, des Anglais, des Iraniens.
Tout ça n'a aucun sens. C'est du galimatia, c'est du charabia pseudo-révolutionnaire. Mais qui est ce type-là ? Qui l'a envoyé tuer le pape ? Pendant ce temps, Jean-Paul II se remet de son opération.
Jean-Paul II est toujours ce matin en salle de réanimation, là où il a été conduit après près de 6 heures d'intervention chirurgicale. Il a fallu procéder à une résection de l'intestin grêle et les 3 chirurgiens ont placé un anus artificiel. Le diagnostic demeure réservé en raison précisément des risques d'infection du péritoine. Le pape a subi dans la région endo-abdominale une importante hémorragie et les médecins lui ont transfusé 3 litres de sang. Par ailleurs, l'un des projectiles tirés par l'agresseur lui a lacéré l'avant-bras et une balle, la troisième, lui a fracturé la deuxième et la troisième phalange de l'index de la main gauche.
Le lendemain de l'attentat, le juge d'instruction inculpe Mehmet Ali Aksa pour tentative d'assassinat d'un chef d'État en complicité avec des personnes encore inconnues. Et donc le procureur demande au service secret italien de reconstituer le périple d'Ali Aksa depuis son évasion jusqu'à l'attentat, pour savoir qui est derrière lui. L'enquête, tenez-vous bien, est bouclée en 10 jours. En 10 jours, les services secrets italiens livrent l'itinéraire détaillé du terroriste. C'est à croire qu'ils avaient déjà toutes les informations sous la main. Beaucoup voyagé. Et ces voyages sont assez désarçonnants. Par exemple, un an avant l'attentat, Aksa est à Sofia, en Bulgarie, avec un faux passeport indien. Et c'est assez surprenant pour un militant d'extrême droite. En 1980, la Bulgarie est sous la coupe des soviétiques, des communistes, donc. Ensuite, toujours avec de faux passeports, Aksa va en France, en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Et 4 jours avant l'attentat, il arrive en Italie. Et le 13 mai, il tire sur le pape. Voilà son parcours reconstitué. Et ça laisse beaucoup de questions en l'air. Qui a financé cette longue cavale d'Ali Aksa ? Qui lui a procuré les faux papiers ? Qui étaient son ou ses complices ? Qui étaient ses commanditaires ? Les Turcs ? Les soviétiques, les fachos ou les communistes? Ça n'est pas une question accessoire. Eh ben si, la justice italienne a décidé de juger Ali Aksa tout de suite. Son procès s'ouvre le 20 juillet 81, soit 2 mois seulement après l'attentat. Dingue !
C'est à 9h30 ce matin que le procès de Mehmet Ali Aksa a débuté dans la grande salle de la cour d'assises du palais de justice de Rome, transformé pour la circonstance en un véritable camp retranché. Toute la question est de savoir si Ali Aksa est seulement un être un peu frustre, simplet, qui avait fait une sorte de fixation sur la personnalité du Saint-Père, ou si au contraire il s'agit d'un tueur à gages, froid et résolu, travaillant pour des commanditaires tapis dans l'ombre.
Ali Aksa entre dans son box en verre. Il est pieds nus, les cheveux en bataille, pas rasés. Il porte un pantalon crasseux, une chemise auréolée de transpiration, on dirait un clochard.
Monsieur Aksa, reconnaissez-vous avoir tiré sur le pape dans l'intention de le tuer? Oui. Vous avez agi seul? Oui.
Et là, Ali Aksa se lève.
Bien. Je considère cette affaire comme terminée. Vous allez continuer sans moi.
Et il sort de la salle d'audience. Et le 25 juillet 1981, il est condamné à la prison à perpétuité. Il ne fait pas appel. Et il est incarcéré à la prison d'Ascoli Piceno, pas très loin de Rome. C'est une prison ultra-moderne, très sécurisée, où sont enfermés les terroristes et les mafieux les plus dangereux. 150 gardiens pour 120 détenus. Et maintenant, est-ce qu'on s'intéresse enfin à la seule question qui vaille ? Qui est derrière cet attentat ? En novembre 1981, le parquet de Rome ouvre une nouvelle instruction. Il va maintenant chercher le ou les complices. Un colonel des services secrets va une fois de plus interroger Aksa dans sa cellule.
Nous savons que vous n'étiez pas seul pour commettre cet attentat. Vous aviez des complices. Des gens vous ont financé. Vous savez qu'une loi sur les repentis est en préparation. Si vous parlez, nous n'aurions aucun mal à obtenir une remise de peine.
Ça, c'est ce qu'on appelle la carotte. Mais la justice italienne pratique aussi le bâton. Elle menace Aksa de l'extrader vers la Turquie, où il risque la peine de mort. Ça fait réfléchir. Et donc finalement, Ali Aksa balance le nom de 4 complices. D'abord, son ami Oral Çelik, son frère jumeau. Ça lui arrache un peu le cœur, mais il était là. Il dénonce aussi un chef mafieux qui aurait financé l'opération et versé 3 millions de Deutsche Mark. Et puis le chef de la Fédération Européenne des Idéalistes Turcs, une organisation ultranationaliste basée à Francfort, en Allemagne. Et enfin, celui qui a gardé son Browning et qui serait venu le lui apporter juste avant l'attentat. 4 complices, donc. Et puis quelques semaines plus tard, il fait une deuxième série de révélations.
Alors, j'ai tiré sur le pape pour le compte des services secrets bulgares.
Ah, on lui présente un album photo. 56 photos de fonctionnaires bulgares en poste à Rome. Ali Aksa en désigne 3. Le secrétaire de l'attaché militaire à l'ambassade de Bulgarie, le chef comptable de l'ambassade et le directeur d'une agence de tourisme bulgare, un certain Antonov. Ali Aksa dit qu'il serait le cerveau de l'attentat.
Un physique quelconque, bon mari, bon père, un poste discret à la Balkan Tourist, l'agence de voyage de la compagnie aérienne bulgare à Rome, Ivanov Antonov n'avait sûrement jamais attiré l'attention de ses voisins depuis 4 ans qu'il habitait dans le quartier Trieste. Pourtant, le voici aujourd'hui au centre de l'attentat qui a failli coûter la vie au pape. Il est accusé ni plus ni moins de complicité active par le juge d'instruction Martella qui, depuis des mois, épluche le dossier de l'affaire en silence.
Antonov est arrêté, il est interrogé, et pendant des semaines, il répète.
Je suis innocent, monsieur le juge instructeur. Je suis sûr qu'un jour viendra où la vérité triomphera. Je suis innocent.
Et assez vite, le juge se dit qu'effectivement, le bonhomme n'a pas l'étoffe et qu'il n'a pas non plus le mental pour avoir fomenté un coup pareil. Et à un moment, on croit le reconnaître sur une photo dans la foule, le jour de l'attentat, mais on l'a confondu avec un pèlerin américain. Cette histoire de Bulgare ne colle pas, et de soviétique encore moins. Pourquoi aurait-il voulu tuer le pape? Parce que Jean-Paul II est anti-soviétique? Parce qu'il a soutenu, par exemple, Lech Walesa en Pologne? Ça paraît fou, dingo, barjo. Est-ce qu'on peut croire une chose pareille? Et ces gens-là, enfin ceux qu'on a pu arrêter, hein, on va les juger, figurez-vous. C'est-à-dire Antonov et Delougris. C'est un procès assez surréaliste qui s'ouvre le 28 mai 1985. Ali Aksa est là aussi comme témoin principal. Et d'entrée, il prend la parole pour rajouter du surréalisme au surréalisme.
Je demande que la cour me laisse dire quelque chose qui ne figure pas dans l'instruction. L'attentat contre le pape est lié au troisième secret de la Madone de Fatima. Au nom de Dieu omniprésent, j'annonce ici la fin du monde. Je suis Jésus-Christ réincarné.
Consternant. Un des anciens Lougris turcs vient rajouter du flou au flou.
Nous, les Lougris, nous étions farouchement anticommunistes. Il était hors de question de collaborer avec les services de l'Est comme les services bulgares ou le KGB. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les services français et allemands ont couvert notre fuite et ils nous ont demandé de charger les Bulgares.
Après 10 mois de procès, le verdict tombe.
Au nom du peuple italien, c'est par ces mots que le président de la Cour d'assises de Rome commence la lecture du verdict. Tous les inculpés, bulgares et turcs, sont acquittés au bénéfice du doute. Ils sont immédiatement remis en liberté. La Cour a donc tranché. Il n'y a pas eu complot dans l'attentat contre le pape. Sergueï Antonov, le principal accusé bulgare, rejoint Sofia dès aujourd'hui, après 4 ans de prison.
Et voilà. Au final, on ne sait rien. On ne sait pas pourquoi on a voulu tuer le pape. Et on ne sait pas qui était derrière tout ça. C'est un fiasco. Quand il sera arrêté quelque temps plus tard, le frère jumeau d'Ali Aksa, Oral Tchelik, viendra encore épaissir le mystère.
De toute façon, vous ne comprendrez jamais. Même nous qui sommes là-dedans, nous ne comprenons qu'à 50%. Oubliez tout ce que vous avez entendu auparavant.
Surréaliste. Fou ! Fou ! Ces gens étaient des fous. Alors, raccrochons-nous à un événement qui, lui, n'était pas fou. Le pardon du pape Jean-Paul II à celui qui a voulu l'assassiner. Le 27 décembre 1983, le pape rend visite à Ali Aksa dans la prison de Rybibia, où il est maintenant incarcéré.
10 heures viennent à peine de sonner. Très ponctuel, le pape arrive aux portes de la prison de Rybibia, un vaste complexe de béton et de briques anonyme et triste. Le vent souffle en rafale. Il s'engouffre sous le manteau rouge du pape lorsque celui-ci franchit à pied le seuil de la prison. Immédiatement, les lourdes portes d'acier blindé se referment derrière lui. Le ministre de la Justice italien, le directeur général des prisons, ainsi que le cardinal Poletti sont là, qui accueillent le pape. Jean-Paul II gagne rapidement la chapelle de la prison, une salle circulaire extrêmement dépouillée, où s'entassent quelques 700 détenus. À peine le pape est-il entré, que de longs et chaleureux applaudissements spontanés le saluent. Au nom de tous les détenus, un prisonnier lit un message de bienvenue. « Pour nous tous, ce jour restera à jamais dans nos mémoires », dit-il. Dans le discours qu'il adresse aux détenus du monde entier, le pape insiste d'ailleurs sur la dignité humaine des détenus, sur la nécessité de leur réserver un traitement juste et ouvert à la possibilité de leur réinsertion dans la société. Dans une petite salle, à l'écart, l'attend pour un tête-à-tête sans témoin, Ali Aksa, l'homme qui a voulu le tuer le 13 mai 1981.
Le pape entre dans la cellule. On laisse la porte ouverte au cas où. La télévision du Vatican est la seule à filmer. De loin.
Ali Aksa, les cheveux courts, pantalon et pullover bleu, est debout. Le pape entre lentement. Ali Aksa se précipite et s'incline. Il prend la main du pape et la baise. Dans la pièce au mur entièrement nu, un radiateur et 2 chaises. Ali Aksa s'assoit, le dos au radiateur. Face à lui, le pape rapproche son siège. Il se penche, les yeux baissés, vers le jeune turc dont il prend la main.
Ali Aka, une sorte de sourire sur les lèvres, approche son visage de l'oreille du pape et se met à lui parler tout bas. L'entretien se termine. Le pape se lève. Ali Aka tombe à genoux. De nouveau, il baise la main du pape. Le tête-à-tête a duré 21 minutes exactement. À sa sortie, le pape apparaît très éprouvé. Les quelques journalistes présents l'assaillent de questions. « Ce qui s'est dit avec Aka est un secret entre moi et lui », répond Jean-Paul II. Et le pape ajoute « Je lui ai parlé comme on parle à un frère à qui j'ai pardonné et qui jouit de ma confiance. Ce que se sont dit si longuement les deux hommes reste dans le huis clos de la cellule d'Ali Aka. »
Ali Aka est sorti de prison en janvier 2010 à l'âge de 52 ans. Il a passé au total 30 années derrière les barreaux, 20 en Italie et 10 en Turquie.
14h, 15h,
on de l'être raconte sur Europe 1.
Voilà donc pour ce récit que nous allons débriefer dans un instant avec Rumiana Ugarczyńska. Pardon madame d'avoir écorché votre nom pendant toute la partie enregistrée de ce récit. Vous avez écrit La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II aux presses de la Renaissance en 2007. On va reprendre cette histoire à zéro dans un instant. Je voudrais juste que vous commentiez cette dernière scène qui vient renforcer l'idée d'un étrange Ali Aka puisqu'il pèse la main du pape. On a affaire à donc quelqu'un qui est censé être un militant d'extrême droite, musulman, et qui semble totalement retourné par ce geste du pape à son endroit.
Oui, c'est ce qu'il a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises après avoir rencontré le pape, après cette rencontre qui effectivement a marqué les esprits, mais également des années après. Et il l'a presque considéré comme un frère. Également en lui adressant des lettres dans lesquelles il l'a mis en garde contre ceux qui étaient les plus proches de lui, puisque vraiment en fin d'emprisonnement et quand il a été libéré, Ali Aka a commencé à pointer du doigt comme commanditaire le Vatican lui-même.
Si j'ai bien compris, au bout de votre enquête, qui peut-être ne s'achèvera jamais, vous êtes bulgare d'origine vous-même, hein. Vous ne croyez pas du tout à la manipulation d'Ali Aka par les services secrets bulgares.
Disons que je n'ai pas trouvé de preuves ni d'éléments qui puissent m'en convaincre. Et pourtant, j'ai brassé énormément de documents, d'archives. J'ai eu des accès assez restreints et parfois même à des documents que je n'aurais jamais dû voir. Parce que quelqu'un de malveillant aurait pu les utiliser à charge. Mais véritablement, je n'ai pas pu trouver les éléments qui pouvaient mener et confirmer surtout cette fameuse filière bulgare. En revanche, en enquêtant, eh bien, il y a d'autres pistes qui s'ouvraient et qui étaient également les pistes sur lesquelles avaient travaillé les juges d'instruction italiens. Et donc, j'ai beaucoup aussi travaillé avec eux pour essayer de comprendre cette affaire.
Restons sur les Bulgares. Alors, pour quelle raison, 2 mois après sa condamnation, les services secrets bulgares vont à 2 reprises le voir en détention et c'est la 2e fois qu'il dit « c'est les Bulgares ». Pourquoi est-ce qu'il dit c'est les Bulgares ? Vous avez une explication à ça ?
Alors, ce sont en réalité les services secrets italiens,
j'ai dit
qui
quoi, français
lui rendent oui. visite en prison. Il a eu de multiples visites en prison. En fait, après sa condamnation, qui est assez rapide, hein, ce premier procès bâclé, il se retrouve dans une prison qui est très connue parce que elle est surnommée la Hilton della Detenzione. Donc, c'était la prison des chefs mafieux et de la Camorra. Ils étaient très bien logés, très bien soignés.
Il avait de la moquette sur le mur.
Voilà. Et donc, il se retrouve là-dedans, un petit peu perdu, ne parlant pas italien. Il commence à apprendre l'italien. Il l'aide, ils deviennent amis.
Avec les chefs mafieux.
Et durant sa détention, il se demande comment il va sortir de là. Il est condamné à une lourde peine, tout de même. Et il se dit, mais il faut que je trouve un moyen. Entre-temps, la loi italienne change, justement, pour permettre à tous ceux qui sont des repentis, au pentito, d'obtenir des remises de peine. Donc, ils trouvent là un moyen et on peut estimer aussi que ces nouveaux amis de la mafia, de la Camorra, l'aident un peu à arriver à cette idée, mais surtout parce que c'est repentis mafieux, ces pentito, ont des contacts avec les services italiens.
Donc ce sont les services italiens qui auraient demandé aux gens de la Camorra de dire à Aliaksa de sortir cette histoire de Bulgare. Mais pourquoi alors ?
Alors, toute l'histoire de la filière bulgare mériterait évidemment une émission à part, parce que c'est une formidable histoire de la guerre froide et c'est une formidable histoire de manipulation. C'est un rideau de fumée et c'est dans l'histoire des services secrets peut-être l'exemple le plus frappant et le mieux réussi de ce que les Américains appelaient les covert actions. Donc, se servir d'un événement pour lui faire dire autre chose et pour en cacher un autre. Et les Américains et les Italiens dans cette affaire ont marché main dans la main pour déployer le rideau de fumée de la filière bulgare. Pourquoi ? Parce que il fallait brouiller les pistes sur qui étaient les loups gris, avec qui ils avaient été en contact durant ce long périple avant que Aliaksa arrive en Italie et qu'il ne commette cet acte de tentative d'assassinat contre Jean-Paul II. Il fallait surtout orienter toute l'instruction vers autre chose que la réalité de ce que sont ces loups gris. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Avec qui ils étaient en contact ? Et là, arriver à d'autres vérités qui, à un moment ou à un autre, allaient amener à parler des connexions entre Italiens, Américains et Turcs.
Un mot avant que vous nous disiez ce à quoi vous croyez. Sur ce procès, on juge Aliaksa 2 mois et demi après l'attentat contre le pape. C'est surréaliste. Un procès terroriste, c'est au minimum de tout temps, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un minimum de 2, 3, 4, 5 ans d'instruction. Pourquoi est-ce que les Italiens vont si vite ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés par la vérité ?
Ils ne sont pas intéressés par la vérité, ils en savent trop. Cette condamnation et ce procès expéditif est aussi surréaliste que l'information que la police est capable de donner à peine 10 jours après que l'attentat soit commis sur toute la trajectoire et tous les voyages et toutes les rencontres et toutes les personnes que Aliaksa connaît. Et n'oublions pas que Aliaksa était déjà à l'époque recherché par Interpol. Or, il passe un an à se balader en Europe occidentale et également en Italie 6 mois. Et la police est au courant. Donc il y a tellement de choses en réalité que les Italiens ne souhaitent pas qu'on aille chercher.
Et exposer au grand public
et
surtout.
Exposer au grand public.
Alors, ce dont on est absolument certain, c'est que Aliaksa appartient aux loups gris, que les loups gris sont en quelque sorte une milice ultranationaliste turque qui collabore avec la CIA. Et avec les services secrets turcs, ou en tout cas avec des membres des services secrets turcs. De ça, on est certain.
Alors, les loups gris sont plus qu'une milice. C'est une organisation armée extrêmement puissante qui compte des centaines, voire des milliers d'adeptes. Ils ont une organisation qui est non seulement basée en Turquie, mais qui a des cellules et des fédérations. Il y a une fédération européenne des loups gris.
Ils existent qui toujours aujourd'hui ?
Ils existent toujours, il y en a en France aussi. C'était une fédération européenne qui avait son siège en Allemagne, mais qui avait des représentations dans toute l'Europe occidentale. Les loups gris sont le bras armé d'un parti d'extrême droite, le MHP, qui existe depuis les années 70, qui est une organisation non seulement d'extrême droite, mais quasiment fascisante. Le créateur de cette organisation avait coopéré avec les nazis. Et leur signe d'ailleurs qui reproduit la tête de loup est quasiment l'équivalent du signe nazi. Ils le brandissent de la même façon.
D'accord.
Et cette organisation qui est le bras armé de ce parti, juste pour l'anecdote, ce parti existe toujours, il est au Parlement turc et aujourd'hui ils sont les alliés de Erdogan. Mais revenons en arrière, les loups gris sont impliqués dans énormément d'affaires d'attentats en Turquie, mais également dans toute l'Europe. Et on se rend compte à travers les années qu'en réalité, ils travaillent en étroite collaboration avec les services secrets turcs, mais pas dans n'importe quelle structure, dans une structure ultra secrète qui ne comprend pas uniquement cette organisation d'extrême droite des loups gris, mais également d'autres organisations d'extrême droite à travers toute l'Europe, qui sont des sortes de cellules dormantes d'une organisation ultra secrète qui s'appelle le Stay Behind, ce qui veut dire en anglais « rester derrière ». C'était
un projet
des Américains
de déstabilisation
qui avait été créé au lendemain de la Seconde Guerre froide pour créer des cellules capables de d'être mobilisées et d'être entraînées, bien sûr, dans le plus grand secret au cas où les Soviétiques envahiraient l'Europe occidentale. Mais après, on s'en est servi à des fins de manipulation et surtout pour essayer d'empêcher la gauche, la montée de la gauche et la prise de pouvoir par la gauche dans différents pays. Ces organisations ont pris des noms différents dans les différents pays membres de l'OTAN, comme le Gladio en Italie, le Glaive en France, et en Turquie, la contre-guérilla qui est s'appuyée sur les loups gris.
Ça ne nous dit pas pourquoi on a tué le pape.
Alors, ça nous
mais
dit
vous
le
avez 20 secondes.
Ça nous dit le comment, ça ne nous dit pas le pourquoi.
Oui.
Et le pourquoi est à aller chercher dans les connexions de ces réseaux et surtout pourquoi le pape était gênant. Le pape était gênant pour plusieurs raisons, mais également parce qu'il y avait une grosse affaire de banqueroute de la Banque du Vatican qui concernait beaucoup de continents, et y compris les Américains.
Merci Roumiana Ougarchinskaya d'avoir partagé avec nous ces quelques informations, fruit d'années et d'années de recherche. J'ai parfaitement conscience que cette interview est pour vous extrêmement frustrante. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, néanmoins, il y a ce livre. Et les livres aujourd'hui ont une vie éternelle grâce à Internet. Ce livre s'appelle « La vérité sur l'attentat contre Jean-Paul II ». Il est paru aux presses de la Renaissance il y a 10 ans. Roumiana Ougarchinskaya.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.